on suit, mais pas tellement. Parce que le golfe se considère une zone indépendante, tout à fait différente du Liban, Syrie, Jordanie, tout ça, Égypte. Il se considère du golfe, arabe, mais du golfe. Et donc, il ne se considère pas du Moyen-Orient. Je ne vois pas une grande union entre le golfe et les autres pays arabes, sauf pour le commerce ou pour d'autres intérêts, mais politiquement, je ne vois pas tellement de liaison.
Un autre pays arabe, musulman, lui aussi une monarchie comme la plupart des pays de la péninsule arabique, le Maroc, a connu quelques mouvements de contestation. Le roi Mohamed VI a décidé de lâcher un peu de lest, a décidé de renoncer à quelques-uns de ses pouvoirs. Est-ce que, selon vous, les monarchies du Golfe pourraient s'inspirer de la voie suivie par le gouvernement marocain ?
Pas maintenant. Je pense que cela demande beaucoup de choses. Par exemple, le roi de l'Arabie Saoudite a donné maintenant le vote aux femmes, pas tout de suite, en 2015. C'est un petit pas vers une conception plus moderne de la société et de la politique. Mais que les rois, les émirs du Golfe pensent à changer beaucoup, peut-être qu'ils le feront, mais très doucement.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique autant de différences entre le Proche-Orient et les pays du Golfe ?
C'est la richesse personnelle. Les pays du Golfe, en général, sont des pays riches et ils ont des possibilités que les autres pays ne rêvent même pas. Et donc, ils ont une certaine force dans le pouvoir. Le pouvoir peut payer pour obtenir le calme, peut payer pour obtenir un vote, pour dominer une insurrection. Et donc, les autres pays ne le peuvent pas.
Autrement dit, les monarchies du Golfe achètent la paix sociale et même la paix politique.
Ils achètent un certain temps de réflexion, donc ils assurent le calme au moins pour un certain temps. Cette méthode est utile, est efficace, si dans ce temps d'attente, ils vont faire de vraies et profondes réformes. Autrement, ça va éclater de nouveau.